Césarine Dietrich, quatrième partie. On annonça le marquis. Je pris mon ouvrage et je restai. « J'avais besoin de vous parler, » lui dit Césarine. « Hier, au bal, vous avez fait mauvaise figure, le savez-vous ? » ?»«
Je le sais, et puisque je ne m'en plains pas... »«
Je ne dois pas vous plaindre, mais moi, je me plains du rôle de souveraine cruelle que vous me faites jouer. » Il faut porter remède à cet état de choses qui blesse mon père et qui m'afflige.
Le remède serait bien simple.
Oui, ce serait de vous agréer comme fiancée, mais puisque cela ne se peut pas.
Vous ne m'aimez pas plus que le premier jour?
Si fait, je vous aime d'une bonne et loyale amitié, mais je ne veux pas être votre femme. Vous savez cela, je vous l'ai dit 100 fois.
Vous avez toujours ajouté un mot que vous retranchez aujourd'hui. Vous disiez « Je ne veux pas encore me marier ».
Donc, selon vous, je vous ai laissé des espérances ?
Fort peu, j'en conviens. Mais vous ne m'avez pas défendu d'espérer.
Je vous le défends aujourd'hui.
C'est un peu tard.
Pourquoi ? Quel sacrifice m'avez-vous fait ?
Celui de mon amour propre. J'ai consenti à promener sous tous les regards mon dévouement pour vous et à me conduire en homme qui n'attend pas de récompense. Votre amitié me faisait trouver ce rôle très beau. Voilà qu'il vous paraît ridicule. C'est votre droit. Mais quel remède m'apportez-vous ?
Il faut n'être plus amoureux de moi et dire à tout le monde que vous ne l'avez jamais été. Je vous aiderai à le faire croire. Je dirais que, dès le principe, nous étions convenus de ne pas gâter l'amitié par l'amour, que c'est moi qui vous ai retenu dans mon intimité. Et si l'on vous raille devant moi, je répondrai avec tant d'énergie que ma parole aura de l'autorité.
Je sais que vous êtes capable de tout ce qui est impossible, mais je ne crains pas du tout la raillerie. Il n'y a de susceptible que l'homme vaniteux. Je n'ai pas de vanité. Le jour où la pitié bienveillante dont je suis l'objet deviendrait amère et offensante, je saurais fort bien faire taire les mauvais plaisants. Ne jetez donc aucun voile sur ma déconvenue. Je l'accepte en galant homme qui n'a rien à se reprocher et qui ne veut pas mentir.
Alors, mon ami, il faut cesser de nous voir, car moi, je n'accepte pas la réputation de coquette fallacieuse.
Vous ne pourrez jamais l'éviter. Toute femme qui s'entoure d'hommes sans en favoriser aucun est condamnée à cette réputation. Qu'est-ce que cela vous fait ? Prenez-en votre parti, comme je prends le mien de passer pour une victime.
Vous prenez le beau rôle, mon très cher. Je refuse le mauvais.
En quoi est-il si mauvais ? Une femme de votre beauté et de votre mérite a le droit de se montrer difficile et d'accepter les hommages.
Vous voulez que je me pose en femme sans cœur ?
On vous adorera, on vous vantera d'autant plus. C'est la loi du monde et de l'opinion. Prenez l'attitude qui convient à une personne qui veut garder à tout prix son indépendance sans se condamner à la solitude.
Vous me donnez de mauvais conseils. Je vois que vous m'aimez en égoïste. Ma société vous est agréable, mon babil vous amuse, vous n'avez pas de sujet de jalousie, étant le mieux traité de mes serviteurs. Vous voulez que cela continue, et vous vous arrangerez de tout ce qui éloignera de moi les gens qui demandent à une femme d'être, avant tout, sincère et bonne.
Je commence à voir clair dans vos préoccupations. Vous voulez vous marier ?
Et qui m'en empêcherait ?
Ce ne serait pas moi. Je n'ai pas de droit à faire valoir.
Vous le reconnaissez ?
Je suis homme d'honneur.
Eh bien, touchez-la. Vous êtes un excellent ami.
Le marquis de Rivonnières baise la main de Césarine avec un respect dont la tranquille abnégation me frappa. Je ne le croyais pas si soumis, et tout en ayant la figure penchée sur ma broderie, je le regardais de côté avec attention.
« Donc, reprit-il après un moment de silence,
Vous allez faire un choix ?
Vous ai-je dit cela ?
Il me semble. Pourquoi ne le diriez-vous pas, puisque je suis et reste votre ami ?
Au fait, si cela était, pourquoi ne vous le dirais-je pas ?
Dites-le, et ne craignez rien. Ai-je l'air d'un homme qui va se brûler la cervelle ?
Non, certes, vous montrez bien qu'il n'y a pas de quoi.
Si fait, il y aurait de quoi. Mais on est philosophe ou on ne l'est pas. Voyons, dites-moi qui vous avez choisi.
Je crus devoir empêcher Césarine de commettre une imprudence, et m'adressant au marquis,
« Elle ne pourrait pas vous le dire, elle n'en sait rien. »«
C'est vrai, » reprit Césarine, « que ma figure inquiète avertit du danger.
Je ne le sais pas encore. »
Monsieur de Rivonnière me parut fort soulagé. Il connaissait les fantaisies de Césarine et ne les prenait plus au sérieux. Il consentit à rire de son irrésolution et à n'y rien voir de cruel pour lui, car de tous ceux qui gâtaient cet enfant si gâté, il était le plus indulgent et le plus heureux de lui épargner tout déplaisir.
Mais dans tout cela, nous ne concluons pas. Il faut pourtant que nous cessions de nous voir, ou que vous cessiez de m'aimer.
Permettez-moi de vous voir, et ne vous inquiétez pas de ma passion déçue. Je la surmonterai, ou je saurai ne pas vous la rendre importune.
Césarine commençait à trouver le marquis trop facile. S'il eût prémédité son rôle, il ne l'eût pas mieux joué. Je vis qu'elle en était surprise et piquée, et que, pour un peu, elle l'eût ramené à elle par quelque nouvel essai de séduction. Elle s'était préparée à une scène de colère ou de chagrin. Elle trouvait un véritable homme du monde, dans le sens chevaleresque et délicat du mot. Il lui semblait qu'elle était vaincue du moment qu'il ne l'était pas.
« Retire-toi maintenant, » lui dis-je à la dérobée. « Je me charge de savoir ce qu'il pense. »
Elle se retira en effet, se disant fatiguée et serrant la main de son esclave assez froidement.
« Je vous demande la permission de rester encore un instant, » me dit Monsieur de Rivonnière dès que nous fûmes seuls. « Il faut que vous me disiez le nom de l'heureux mortel. »«
Il n'y a pas d'heureux mortel, » répondis-je. « Monsieur Dietrich a en effet reproché à sa fille la situation où ses atermoiements vous plaçaient. Elle a dit qu'elle se marierait pour en finir. »«
Avec qui ? Avec moi ?»«
Non, avec l'empereur de la Chine. Ce qu'elle a dit n'est pas plus sérieux que cela. »
« Vous voulez me ménager, mademoiselle de Nermont, ou vous ne savez pas la vérité. Mademoiselle Dietrich aime quelqu'un. »«
Qui donc soupçonnez-vous ? » ?»«
Je ne sais pas, mais je le saurai. » Elle a disparu du bal un quart d'heure après avoir remis un billet à Bertrand, son homme de confiance. Je l'ai suivi, cherché, perdu. Je l'ai retrouvé, sortant d'un passage mystérieux. Elle m'a pris vivement le bras en m'ordonnant de la mener danser. Je n'ai pas pu voir la personne qu'elle laissait derrière elle ou qu'elle venait de reconduire. Mais elle avait beau rire et railler mon inquiétude, elle était inquiète elle-même.
« Avez-vous quelqu'un en vue dans vos suppositions ?»«
J'ai tout le monde. Il n'est pas un homme parmi tous ceux qu'on reçoit ici qui ne soit épris d'elle. »
« Vous me paraissez résigné à n'être point jaloux de celui qui vous serait préféré. »«
Jaloux, moi, je ne le serai pas longtemps, car celui qu'elle voudra épouser est... »«
Eh bien, quoi ?»«
Eh bien, quoi ? Je le tuerai, parbleu. » »«
Que dites-vous là ?»«
Je dis ce que je pense et ce que je ferai. » »«
Vous parlez sérieusement ? » ?»«
Vous le voyez bien. » dit-il en passant son mouchoir avec un mouvement brusque sur son front baigné de sueur. Sa belle figure douce n'avait pas un pli malséant, mais ses lèvres étaient pâles et comme violacées. Je fus très effrayé.
« Comment, lui dis-je, vous êtes vindicatif à ce point, vous que je croyais si généreux ?»«
Je suis généreux de sang-froid, par réflexion.
mais dans la colère. Je vous l'avais bien dit, je ne m'appartiens plus.
Vous réfléchirez, alors.
Non, pas avant de m'être vengée. Cela ne me serait pas possible.
Vous êtes capable d'une colère de plusieurs jours?
De plusieurs semaines? De plusieurs mois, peut-être.
Alors, c'est de la haine que vous nourrissez en vous sans la combattre. Et vous vous vantiez tout à l'heure d'être philosophe.
Tout à l'heure, je mentais. Vous mentiez. Mademoiselle Dietrich mentait aussi. Nous étions dans la convention, dans le savoir-vivre. À présent, nous voici dans la nature, dans la vérité. Elle était prise d'un autre homme que moi, sans se soucier de moi ni de rien au monde. Vous me cachez son nom par prudence, mais vous comprenez fort bien mon ressentiment. Et moi, je sens monter de ma poitrine à mon cerveau des flots de sang embrasés. Ce qu'il y a de sauvage dans l'homme, dans l'animal, si vous voulez, prend le dessus et réduit à rien les belles maximes, les beaux sentiments de l'homme civilisé. Ouais, c'est comme cela. Tout ce que vous pourriez me dire dans la langue de la civilisation n'arrive plus à mon esprit. C'est inutile. Il y a 3 ans que j'aime Mademoiselle Dietrich. J'ai essayé, pour l'oublier, d'en aimer une autre. Cette autre, je la lui ai sacrifiée, et ça a été une très mauvaise action, car j'avais séduit une fille pure, désintéressée, une fille plus belle que Césarine et meilleure. Je ne la regrette pas, puisque je n'avais pu m'attacher à elle. Mais je sens ma faute, d'autant plus qu'il ne m'a pas été permis de la réparer. Une petite fortune en billets de banque que j'envoyais à ma victime m'a été renvoyée à l'instant même avec mépris. Elle est retournée chez ses parents. Et quand je l'y ai cherchée, elle avait disparu. Sans que, depuis 2 ans, j'aie pu retrouver sa trace. Je l'ai cherchée jusqu'à la morgue, baignée d'une sueur froide, comme me voilà maintenant, en subissant l'expiation de mon crime. Car c'est à présent que je le comprends. Et que j'en sens le remords. Attaché au pas de Césarine et poursuivant la chimère, je m'étourdissais sur le passé. On me brise, me voilà puni, honteux, furieux contre moi. Je revois le spectre de ma victime. Il rit d'un rire atroce au fond de l'eau où le pauvre cadavre gît peut-être. Pauvre fille, tu es vengée, va. Mais je te vengerai encore plus. Césarine n'appartiendra à personne. Ses rêves de bonheur s'évanouiront en fumée. Je tuerai quiconque approchera d'elle.
Vous voulez jouer votre vie pour un dépit d'amour?
Je ne jouerai pas ma vie. Je nierai, j'assassinerai, s'il le faut, plutôt que de laisser échapper ma proie.
Et après?
Après, je n'attendrai pas qu'on me traîne devant les tribunaux. Je ferai justice de moi-même. »
En parlant ainsi, le marquis, pâle et les yeux remplis d'un feu sombre, avait pris son chapeau. Je m'efforçai en vain de le retenir.
« Où allez-vous ? » lui dis-je. « Vous ne pouvez vous en prendre à personne. »«
Je vais, » répondit-il, « me constituer l'espion et le geôlier de Césarine. Elle ne fera plus un pas. Elle n'écrira plus un mot que je ne le sache. » Et il sortit, me repoussant presque de force. Je courus chez Césarine, qui était déjà couchée et à moitié endormie. Elle avait le sommeil prompt et calme des personnes dont la conscience est parfaitement pure ou complètement muette. Je lui racontai ce qui venait de se passer. Elle m'écouta presque en souriant. « Allons, » dit-elle. « Je lui rends mon estime à ce pauvre Rivonnière. Je ne croyais pas avoir affaire à un amour si énergique. Cette fureur me plaît mieux que sa plate soumission. Je commence à croire qu'il mérite réellement mon amitié. »«
Et peut-être ton amour ?»«
Qui sait ?» dit-elle en bâillant. « Peut-être. Allons. J'essaierai d'oublier ton neveu. » Écris donc vite un mot pour que le marquis ne se tue pas cette nuit. Dis-lui que je n'ai rien résolu du tout. » J'étais si effrayée pour mon Paul
que j'écrivis à monsieur de Rivonnières en lui jurant que Césarine n'aimait personne. Et dès que monsieur Dietrich fut rentré, je la suppliai de ne plus jamais songer à mon neveu pour en faire son gendre. Monsieur de Rivonnières ne reparut qu'au bout de 8 jours. Il m'avoua qu'il n'avait pas cru à ma parole, qu'il avait espionné minutieusement Césarine et que, n'ayant rien découvert, il revenait pour l'observer de près. Césarine lui fit bon accueil et, sans prendre aucun engagement, sans entrer dans aucune explication directe, elle lui laissa entendre qu'elle l'avait soumis à une épreuve. Mais bientôt, elle se vit comme prise dans un réseau de défiance et de jalousie. Le marquis commentait toutes ses paroles, épiait tous ses gestes, cherchait à lire dans tous ses regards. Cette passion ardente dont elle l'avait jugée incapable, qu'elle avait peut-être désiré d'inspirer, lui devint vite une gêne, une offense, un supplice. Elle s'en plaignit avec amertume et déclara qu'elle n'épouserait jamais un despote. Monsieur de Rivonnières se le tint pour dit et ne reparut plus, ni à l'hôtel Dietrich, ni dans les autres maisons où il eût pu rencontrer Césarine. Césarine s'ennuya. « C'est étonnant, me dit-elle un jour, comme on s'habitue aux gens. Je m'étais figuré que ce bon Rivonnières faisait partie de ma maison, de mon mobilier, de ma toilette, que je pouvais être absurde, bonne, méchante, folle, triste sous ses yeux, sans qu'il s'en émût plus que s'en émeuvent les glaces de mon boudoir. Il avait un regard pétrifié dans le ravissement, qui m'était agréable et qui me manque. Quelle idée a-t-il eue de se transformer en Othello du soir au lendemain ? Je l'aimais un peu en cavalier servant. Je ne l'aime plus du tout en héros de mélodrame. Oublie-le, lui dis-je. Ne fais pas son malheur, puisque tu ne veux pas faire son bonheur. Laisse passer le temps, puisque le célibat ne te pèse pas. Et puis tu choisiras parmi tes nombreux aspirants celui qui peut t'inspirer un attachement durable. Et qui veux-tu que je choisisse, puisque ce capitaine veut tuer l'objet de mon choix ou se faire tuer par lui? Voilà que ce choix doit absolument entraîner mort d'homme. Est-ce une perspective réjouissante? Espérons que cette fureur de marquis passera, si elle n'est déjà passée. Elle était trop violente pour durer. Et qui sait si ce parfait homme du monde n'est pas tout simplement un affreux sauvage? Et quand on pense qu'il n'est peut-être pas le seul qui cache des passions brutales sous les dehors d'un ange. Je ne sais plus à qui me fier, moi. Je me croyais pénétrante. Je suis peut-être la dupe de tous les beaux discours qu'on me fait et de toutes les belles manières qu'on étale devant moi. Si tu veux que je te le dise, repris-je, décidé à ne plus la ménager, je ne te crois pas pénétrante du tout. Vraiment ? Pourquoi ? Parce que tu es trop occupée de toi-même pour bien examiner les autres. Tu as une grande finesse pour saisir les endroits faibles de leur armure. Mais les endroits forts, tu ne veux jamais supposer qu'ils existent. Tu aperçois un défaut, une fente, tu y glisses la lame du poignard, mais elle y reste prise et ton arme se brise dans ta main. Voilà ce qui est arrivé avec monsieur de Rivonnières. Et ce qui m'arriverait peut-être avec tous les autres ? Il se peut que tu aies raison, et que je sois trop personnelle pour être forte. Je tâcherai de me modifier. Pourquoi donc toujours chercher la force, quand la douceur serait plus puissante ? Est-ce que je n'ai pas la douceur ? Je croyais en avoir toutes les suavités. Tu en as toutes les apparences, tous les charmes. Mais ce n'est pour toi qu'un moyen comme ta beauté, ton intelligence et tous tes dons naturels. Au fond, ton cœur est froid et ton caractère dur. Comme tu m'arranges ce matin, faut-il que je sois habituée à tes rigueurs? Eh bien, dis-moi, méchante, crois-tu que je pourrais devenir tendre si je le voulais? Non. Il est trop tard. Tu n'admets pas qu'un sentiment nouveau, inconnu,
L'amour, par exemple, put éveiller des instincts qui dorment dans mon cœur ?
Non, ils se fussent révélés plus tôt. Tu n'as pas l'âme maternelle. Tu n'as jamais aimé ni tes oiseaux ni tes poupées.
Je ne suis pas assez femme, selon toi.
Ni assez homme non plus.
Eh bien, dit-elle en se levant avec humeur, je tâcherai d'être homme tout à fait. Je vais mener la vie de garçon. Chasser, crever des chevaux, m'intéresser aux écuries et à la politique, traiter les hommes comme des camarades, les femmes comme des enfants, ne pas me soucier de relever la gloire de mon sexe, rire de tout, me faire remarquer, ne m'intéresser à rien et à personne. Voilà les hommes de mon temps. Je veux savoir si leur stupidité les rend heureux. »
Elle sonna, demanda son cheval, et malgré mes représentations, s'en alla parader au bois, sous les yeux de tout Paris, escortée d'un domestique trop dévoué, le fameux Bertrand, et d'un groom pur sang. C'était la première fois qu'elle sortait ainsi sans son père ou sans moi. Il est vrai de dire que, ne montant pas à cheval, je ne pouvais l'accompagner qu'en voiture, et que M. Dietrich, ayant rarement le temps d'être son cavalier, elle ne pouvait guère se livrer à son amusement favori. Elle nous avait annoncé plus d'une fois qu'aussitôt sa majorité, elle prétendait jouir de sa liberté comme une jeune fille anglaise ou américaine. Nous espérions qu'elle ne se lancerait pas trop vite. Elle voulait se lancer. Elle se lança. Et de ce jour, elle sortit seule dans sa voiture et rendit les visites sans se faire accompagner par personne. Cette excentricité ne déplut point, bien qu'on la blâmât. Elle lutta avec tant de fierté et de résolution qu'elle triompha des doutes et des craintes des personnes les plus sévères. Je tremblais qu'elle ne prît fantaisie d'aller seule à pied par les rues. Elle s'en abstint, et en somme, protégée par ses gens, par son grand air, par son luxe de bon goût et sa notoriété déjà établie, elle ne courait de risque que si elle eût souhaité d'en courir, ce qui était impossible à supposer. Cette liberté précoce, à laquelle son père n'osa s'opposer dans la situation d'esprit où il la voyait, l'enivra d'abord comme un vin nouveau, et lui fit oublier son caprice pour mon neveu. Elle l'éloigna même tout à fait de la pensée du mariage. Paul revint d'Allemagne, et mes perplexités revinrent avec lui. Je ne voulais pas qu'il revît jamais Césarine. Mais comment lui dire de ne plus venir à l'hôtel Dietrich sans lui avouer que je craignais une entreprise plus sérieuse que la première contre son repos? Césarine semblait guérie, mais à quoi pouvait-on se fier avec elle? Et si, à mon insu, elle lui tendait le piège du mariage, ne serait-il pas ébloui au point d'y tomber, ne fût-ce que quelques jours, sauf à souffrir toute sa vie d'une si terrible déception? Je me décidai à lui dire toute la vérité, et je devançai sa visite en allant le trouver à son bureau. Il avait un cabinet de travail chez son éditeur. J'y étais à 7 heures du matin, sachant bien qu'à peine arrivé à Paris, il courrait à sa besogne au lieu de se coucher. Quand je lui eus avoué mes craintes, sans toutefois lui parler des menaces de M. de Rivonnière, qu'il eût peut-être voulu braver, il me rassura en riant. « Je n'ai pas l'esprit porté au mariage, » me dit-il, « et de toutes les séductions que Mademoiselle Dietrich pourrait faire chatoyer devant moi, celle-ci serait la plus inefficace. Épouser une femme légère, moi ? Donner mon temps, ma vie, mon avenir, mon cœur et mon honneur à garder à une fille sans réserve et sans frein, qui joue son existence à pile ou face ? Ne craignez rien, ma tante. Elle m'est antipathique, votre merveilleuse amie. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Je ferai donc violence à mon inclination pour partager sa fortune. Je croyais que toute ma vie donnait un démenti à cette supposition.
Oui, mon enfant, oui, certes. Ce n'est pas ton ambition que j'ai pu craindre, mais quelques vertiges de l'imagination ou des sens.
Rassurez-vous, ma tante, j'ai une maîtresse plus jeune et plus belle que Mademoiselle Dietrich.
Que me dis-tu là? Tu as une maîtresse, toi?
Eh bien donc, cela vous surprend?
Tu ne me l'as jamais dit?
Vous ne me l'avez jamais demandé?
Je n'aurais pas osé. Il y a une pudeur, même entre une mère et son fils.
Alors j'aurais mieux fait de ne pas vous le dire. N'en parlons plus.
Si fait, je suis bien aise de le savoir. Ton grand prestige pour Césarine venait de ce qu'elle t'attribuait la pureté des anges.
Dites-lui que je ne l'ai plus.
Mais où prends-tu le temps d'avoir une maîtresse?
C'est parce que je lui donne tout le temps dont je peux disposer que je ne vais pas dans le monde et ne perds pas une minute en dehors de mon travail ou de mes affections.
À la bonne heure. Es-tu heureux?
Très heureux, ma tante.
Elle t'aime bien?
Non, pas bien, mais beaucoup.
C'est-à-dire qu'elle ne te rend pas heureux?
Vous voulez tout savoir?
Eh mon Dieu, oui, puisque je sais un peu.
Eh bien, écoutez, ma tante. Il y a 2 ans, 2 ans et quelques mois, je me rendais de la part de mon patron chez un autre éditeur qui demeure en été à la campagne, sur les bords de la Seine. Après la station du chemin de fer, il y avait un bout de chemin à faire à pied, le long de la rivière, sous les saules. En approchant d'un massif plus épais, qui fait une pointe dans l'eau, je vis une femme qui se noyait. Je la sauvais, je la portais à une petite maison fort pauvre, la première que je trouvais. Je fus accueilli par une espèce de paysanne qui fit de grands cris en reconnaissant sa fille.
« Ah, la malheureuse enfant !» disait-elle. « Elle a voulu périr. J'étais sûre qu'elle finirait comme ça. »«
Mais elle n'est pas morte, lui dis-je. Soignez-la, réchauffez-la bien vite. Je cours chercher un médecin. Où en trouverai-je un par ici ?»«
Là !» me dit-elle en me montrant une maison blanche en face de la sienne, mais de l'autre côté de la rivière.
« Sautez dans le premier bateau venu, on vous passera. »
Je cours au bateau, personne, dedans ni autour. Les bateaux sont enchaînés et cadenassés. J'étais mouillée, je jette mon paletot qui m'eût embarrassée. Je traverse à la nage un bras de rivière qui n'est pas large, j'arrive chez le médecin, il est absent. Je demande comme on indique un autre. On me montre le village derrière moi. Je me rejette à la rivière, je reviens à la maison de la blanchisseuse, car la mère de ma sauvée était blanchisseuse. Je voulais savoir s'il était temps encore d'appeler le médecin. J'y rencontre précisément celui que j'avais été chercher et qui, se trouvant à passer par là, avait été averti d'entrer.
« La pauvre fille en sera quitte pour un bain froid, me dit-il. L'évanouissement se dissipe. Vous l'avez saisi à temps. C'est une bonne chance, monsieur, quand le dévouement est efficace. Mais il ne faut pas en être victime, ce serait dommage. Vous êtes mouillé cruellement et il ne fait pas chaud. Allez chez moi bien vite, pendant que je surveillerai encore un peu la malade. »
Il me fit monter bon gré mal gré dans son cabriolet et donna l'ordre à son domestique de gagner le pont, qui n'était pas bien loin, et de me conduire, bride abattue, à la maison pour me faire changer d'habit. En 5 minutes, nous fûmes rendus. La femme du docteur, mise au courant en 2 mots par le domestique, qui retournait attendre son maître, me fit entrer dans sa cuisine où brûlait un bon feu. La servante m'apporta la robe de chambre, le pantalon du matin, les pantoufles de son maître et un bol de vin chaud. Je n'ai jamais été si bien dorlotée. J'étais à peine revêtue de la défroque du docteur qu'il arriva pour me dire que ma noyée se portait bien et pour me signifier que je ne sortirais pas de chez lui avant d'avoir dîné pendant que mes habits sécheraient. Mais tous ces détails sont inutiles. J'étais chez des gens excellents qui me renseignèrent amplement sur le compte de Marguerite. C'est le nom de la jeune fille qui avait voulu se suicider. Elle avait 16 ans. Elle était née dans cette maisonnette où je l'avais déposée et où elle avait partagé les travaux pénibles de sa mère, tout en apprenant d'une voisine
un travail plus délicat qu'elle faisait à la veillée. Elle était habile raccommodeuse de dentelles. C'était une bonne et douce fille, laborieuse et nullement coquette. Mais elle avait le malheur d'être admirablement belle et d'attirer les regards. Sa mère, l'envoyant porter l'ouvrage aux pratiques dans le village et les environs, elle avait rencontré l'année précédente un bel étudiant qui flânait dans la campagne et qui la guettait à son insu depuis plusieurs jours. Il lui parla, il la persuada, elle le suivit. Il faut vous dire, c'est le docteur qui parle, qu'elle était fort maltraitée par sa mère, qui est une vraie coquine et qui n'eut pas mieux demandé que de spéculer sur elle, mais qui jeta les hauts cris quand l'enfant disparut sans avoir été l'objet d'un contrat passé à son profit. Au bout de 2 mois environ, l'étudiant qui avait mené Marguerite à Paris ou aux environs, on ne sait où, partit pour aller se marier dans sa province, abandonnant la pauvre fille après lui avoir offert de l'argent qu'elle refusa. Elle revint chez sa mère, qui lui eut pardonné si elle lui eut rapporté quelque fortune, et qui l'accabla d'injures et de coups en apprenant qu'elle n'avait rien accepté. Depuis cette triste aventure, c'est toujours le docteur qui parle, Marguerite s'est conduite sagement et vertueusement, travaillant avec courage, subissant les reproches et les humiliations avec douceur. Ma femme l'a prise en amitié et lui a donné de l'ouvrage. Moi, j'ai eu à la soigner, car le chagrin l'avait rendue très malade. Heureusement pour elle, elle n'était pas enceinte. Malheureusement peut-être, car elle se fut rattachée à la vie pour élever son enfant. Depuis quelques semaines, elle était plus à plaindre que jamais. Sa mère voulait qu'elle se vendît à un vieillard libertin, que je connais bien, mais que je ne nommerai pas. C'est mon plus riche client, et il passe pour un grand philanthrope. Cette persécution est devenue si irritante que Marguerite a perdu la tête et a voulu se tuer aujourd'hui, pour échapper au mauvais destin qui la poursuit. Je ne sais pas si vous lui avez rendu service en la sauvant, mais vous avez fait votre devoir. Et en somme, vous avez sauvé une bonne créature, qui eût été honnête si elle eût eu une bonne mère. Ne lui ouvrirez-vous pas votre maison, docteur? Ou ne trouverez-vous pas à la placer quelque part? J'y ai fait mon possible, mais sa mère ne veut pas qu'on lui arrache sa proie. Ma position dans le pays ne me permet pas d'opérer un enlèvement de mineur. Alors que deviendra-t-elle la malheureuse? Elle se perdra, ou elle se tuera. Telle fut la conclusion du docteur. Il était bon, mais il avait affaire à tant de désastres et de misères qu'il ne pouvait que se résigner à voir faillir, souffrir ou mourir. Le lendemain, je retournai voir Marguerite avec un projet arrêté. Je la trouvai seule, encore pâle et faible. Sa mère était en course pour servir ses pratiques. La pauvre fille pleura en me voyant. Je voulus lui faire promettre pour ma récompense qu'elle renoncerait au suicide. Elle baissa la tête en sanglotant et ne répondit pas. « Je sais votre histoire, lui répondis-je. Je sais votre intolérable position. Je vous plains, je vous estime et je veux vous sauver. Mais je ne suis pas riche et ne peux vous offrir qu'une condition très humble. Je connais une très honnête ouvrière, douce et désintéressée, d'un certain âge. Je vous placerai chez elle, et pour une modeste pension que je lui servirai, elle vous logera et vous nourrira, jusqu'à ce que vous puissiez subsister de votre travail. Voulez-vous accepter ? » Elle refusa. Je crus qu'elle s'était décidée à céder aux infâmes exigences de sa mère, mais je me trompais. Elle croyait que je voulais faire d'elle ma maîtresse. « Si j'allais avec vous, me dit-elle, « vous ne m'épouseriez pas ?»« Non, certainement, répondis-je. Je ne compte pas me marier. »« Jamais ?»« Pas avant 10 ou 12 ans. Je n'aurais pas le moyen d'élever une famille. »« Mais si vous trouviez une femme riche ?»« Je ne la trouverais pas. »« Qui sait ?»« Si je la trouvais, il faudrait qu'elle attendît pour m'épouser que je fusse riche moi-même. »«
je ne veux rien devoir à personne.
Et qu'est-ce que je serais pour vous si vous m'emmeniez ?
Rien.
Vraiment, rien ? Vous n'exigeriez pas de reconnaissance ?
Pas la moindre. Je ne suis pas amoureux de vous, toute belle que vous êtes. Je n'ai pas le temps d'avoir une passion. Et s'il faut vous tout dire, je ne me sens capable de passion que pour une femme dont je serais le premier amour. Mais prendre de votre beauté pour mon plaisir, dans la situation où je vous rencontre, me semblerait une lâcheté, un abus de confiance. Je vous offre une vie honnête, mais laborieuse et très précaire. On vous propose le bien-être, la paresse et la honte. Vous réfléchirez. Voici mon adresse. Cachez-la bien, car vous n'échapperez à l'autorité de votre mère qu'en vous tenant caché vous-même. Si vous avez confiance en moi, venez me trouver.
« Mais mon Dieu !» s'écria-t-elle toute tremblante. « Pourquoi êtes-vous si bon pour moi ?»«
Parce que je vous ai empêché de mourir et que je vous dois de vous rendre la vie possible. » Je la quittai. Le lendemain, elle était chez moi. Je la conduisis chez l'ouvrière qui devait lui donner asile et je ne la revis pas de 8 jours. Quand j'eus le temps d'aller m'informer d'elle, je la trouvai au travail. Son hôtesse se louait beaucoup d'elle. Marguerite me dit qu'elle était heureuse. Et quelques mois, qui se passèrent ainsi, me convainquirent de sa bonne conscience et de sa bonne conduite. Elle travaillait vite et bien, ne sortait jamais qu'avec sa nouvelle amie, et lui montrait une douceur et un attachement dont celle-ci était fort touchée. J'étais content d'avoir réussi à bien placer un petit bienfait, ce qui est plus difficile qu'on ne pense.
Alors, tu es devenu amoureux d'elle ?
Non, c'est elle qui s'est mise à m'aimer, à s'exagérer mon mérite, à me prendre pour un dieu, à pleurer et à maigrir de mon indifférence. Quand je voulus la confesser, je vis qu'elle était désespérée de ne pas me plaire.
« Vous me plaisez, lui dis-je.
Là n'est pas la question. Si vous étiez une fille légère, je vous aurais fait la cour éperdument. Mais vous méritez mieux que d'être ma maîtresse, et vous ne pouvez pas être ma femme, vous le savez bien. »
« Je le sais trop, répondit-elle. Vous êtes un homme fier et sans tache. Vous ne pouvez pas épouser une fille souillée. Mais si j'étais votre maîtresse, vous me mépriseriez donc ?
Non, certes, à présent que je vous connais, j'aurai pour vous les plus grands égards et la plus solide amitié.
Et cela durerait
le plus longtemps possible, peut-être toujours.
Vous ne promettez rien absolument.
Rien, absolument. Et j'ajoute que votre sort ne serait pas plus brillant qu'il ne l'est à présent. Je n'ai pas de chez moi. Je vis de privation. Je ne pourrai vous voir de toute la journée. Je vous empêcherai de manquer du nécessaire. Mais je ne pourrai vous procurer ni bien-être, ni loisirs, ni toilette.
J'accepte cette position-là, me dit-elle. Tant que je pourrai travailler, je ne vous coûterai rien. Votre amitié, c'est tout ce que je demande. Je sais bien que je ne mérite pas davantage, mais que je vous vois tous les jours et je serai contente.
Voilà comment je me suis liée à Marguerite, d'un lien fragile en apparence, sérieux en réalité, car... Mais je vous en ai dit assez pour aujourd'hui, ma bonne tante. J'entends la sonnette qui m'avertit d'une visite d'affaires. Si vous voulez tout savoir, venez demain chez moi.
Chez toi ? Tu as donc un chez-toi, à présent ?
Oui, j'ai loué rue d'Assas un petit appartement où travaillent toujours ensemble Marguerite et Madame Ferron, l'ouvrière qui l'a recueillie et qui s'est attachée à elle. J'y vais le soir seulement. Mais demain, nous aurons congé dès midi, et si vous voulez être chez nous à 1 heure, vous m'y trouverez. Le lendemain, à l'heure dite, je fus au numéro de la rue d'Assas, qu'il m'avait donné par écrit. Je demandai au concierge, Mademoiselle Ferron, raccommodeuse de dentelle, et je montai au 3e. Paul m'attendait sur le palier, portant dans ses bras un gros enfant d'environ 1 an, frais comme une rose, beau comme sa mère,
laquelle se tenait, émue et craintive, sur la porte. Paul mit son fils dans mes bras en me disant « Embrassez-le. Bénissez-le, ma tante. À présent, vous savez toute mon histoire. » J'étais attendrie et pourtant mécontente. La brusque révélation d'un secret si bien gardé remettait en question pour moi l'avenir logique que j'eusse pu rêver pour mon neveu, et qui, dans mes prévisions, n'avait jamais abouti à une maîtresse et un fils naturel. L'enfant était si beau, et le baiser de l'enfance est si puissant, que je pris le petit Pierre sur mes genoux dès que je fus entrée, et le tins serré contre mon cœur sans pouvoir dire un mot. Marguerite était à mes pieds et sanglotait. « Embrasse-la donc aussi, » me dit Paul. « Si elle ne le méritait pas, je ne t'aurais pas attiré ici. » J'embrassai Marguerite et je la contemplai. Paul m'avait dit vrai. Elle était plus belle dans sa petite tenue de grisette modeste que Césarine dans tout l'éclat de ses diamants. Les malheurs de sa vie avaient donné à sa figure et à sa taille parfaite une expression pénétrante et une longueur d'attitude qui intéressaient à elle au premier regard et qui à chaque instant touchaient davantage. Je m'étonnais qu'elle n'eût pas inspiré à Paul une passion plus vive que l'amitié. Peu à peu, je crus en découvrir la cause. Marguerite était une vraie fille du peuple, avec les qualités et les défauts qui signalent une éducation rustique. Elle passait de l'extrême timidité à une confiance trop expansive. Elle n'était pas de ces natures exceptionnelles que le contact d'un esprit élevé transforme rapidement. Elle parlait comme elle avait toujours parlé. Elle n'avait pas la gentillesse intelligente de l'ouvrière parisienne. Elle était contemplative plutôt que réfléchie, et si elle avait des moments où l'émotion lui faisait trouver l'expression frappante et imagée, la plupart du temps sa parole était vulgaire et comme habituée à traduire des notions erronées ou puériles. On me présenta aussi Madame Ferron, veuve d'un sous-officier tué en Crimée et jouissant d'une petite pension, qui, jointe à son travail de repasseuse de faim, la faisait vivre modestement. Elle aidait Marguerite aux soins de son ménage et promenait l'enfant au Luxembourg, n'acceptant pour compensation à cette perte de temps que la gratuité du loyer. On me montra l'appartement, bien petit, mais prenant beaucoup d'air sur les toits et tenu avec une exquise propreté. Les deux femmes avaient des chambres séparées, une pièce plus grande leur servait d'atelier et de salon. La salle à manger et la cuisine étaient microscopiques. Je remarquai un cabinet assez spacieux, en revanche, où Paul avait transporté quelques livres, un bureau, un canapé-lit et quelques petits objets d'art. « Tu travailles donc même ici ?» lui dis-je. « Quelquefois, quand monsieur mon fils fait des dents et m'empêche de dormir. Mais ce n'est pas pour me donner le luxe d'un cabinet que j'ai loué cette pièce. Pourquoi donc ?» Vous ne devinez pas ? Non. Eh bien, c'est pour vous, ma petite tante. C'est notre plus jolie chambre et la mieux meublée. Elle est tout au fond, et vous pourriez y dormir et y travailler sans entendre le tapage de monsieur Pierre. Tu désires donc que je vienne demeurer avec toi ? Non, ma tante, vous êtes mieux à l'hôtel Dietrich, mais vous n'y êtes pas chez vous. Et je vous ai toujours dit qu'un caprice de la belle Césarine pouvait d'un moment à l'autre vous le faire sentir. J'ai voulu avoir à vous offrir tout de suite un gîte, ne fût-ce que pour quelques jours. Je ne veux pas qu'il soit dit que ma tante peut partir dans un fiacre du palais qu'elle habite avec l'embarras de savoir où elle déposera ses paquets et la tristesse de se trouver seule dans une chambre d'hôtel. Voilà votre pied-à-terre, ma tante. Et voici vos gens, deux femmes dévouées et un valet de chambre, qui, sous prétexte qu'il est votre neveu, vous servira fort bien. J'embrassai mon cher enfant avec un attendrissement profond. Toute la famille me reconduisit jusqu'en bas,
et je ne m'en allais pas sans promettre de revenir bientôt. Il fut convenu que je ne verrais plus Paul que chez lui, les jours où il aurait congé. Si d'une part j'étais effrayée de le voir engagé, à 24 ans, dans une liaison que sa jeune paternité rendrait difficile à rompre, d'autre part je le voyais à l'abri des fantaisies de Césarine, comme des vengeances du marquis, et j'étais soulagée de l'anxiété la plus immédiate, la plus poignante. Césarine s'aperçut vite de ce rasserrènement et de l'émotion qui l'avait précédée. « Qu'as-tu donc ? » me dit-elle dès que je fus rentrée. « Tu es restée longtemps et tu as pleuré. » Je le niai. « Tu me trompes, » dit-elle. « Ton neveu doit être revenu. Malade peut-être, mais il est hors de danger, cela se voit dans tes yeux. » Si mon neveu était en soit peu malade, même hors de danger, je ne serais pas rentrée du tout. Donc ton roman est invraisemblable. J'en chercherai un autre, 10 autres s'il le faut, et je finirai par trouver le vrai. Il y a eu ce matin un drame dans ta vie, comme on dit. Eh bien, peut-être, répondis-je, pressé que j'étais de détourner de Paul, une fois pour toutes, ses préoccupations. Mon neveu m'a causé aujourd'hui une grande surprise. Il m'a révélé qu'il était marié. Ha ! La bonne plaisanterie ! S'écria Césarine en éclatant de rire, bien qu'elle fût devenue très pâle. « Voilà tout ce que tu as imaginé pour me dégoûter de lui? Est-ce qu'il aurait pu se marier sans ton consentement ?»« Parfaitement. Il est majeur, émancipé de ma tutelle. »« Et il ne t'aurait pas seulement fait part de son mariage, ce modèle des neveux ?»« Dans un mariage d'amour, on ne veut consulter personne, si l'on craint d'inquiéter ses amis. » Heureusement, il a fait un bon choix. J'ai vu sa femme aujourd'hui. Elle est jolie. Elle est jolie et elle est belle. Plus que moi, j'imagine. Incontestablement. Quel conte tu me fais! J'ai embrassé leur fils, un enfant adorable. Leur fils? Le fils de ton neveu? Est-ce que ton neveu est en âge d'avoir un fils? C'est un marmot que tu veux dire. Un marmot, soit, il a 1 an déjà. Pauline, jure que tu ne te moques pas de moi. Je te le jure. Alors c'est fini, dit-elle. Voilà ma dernière illusion envolée comme les autres. Et se détournant, l'étrange fille mit sa figure dans ses mains et pleura amèrement. Je la regardai avec stupeur, me demandant si ce n'était pas un jeu pour m'attendrir et m'amener à la rétractation d'un mensonge. Voyant que je ne lui disais rien, elle sortit avec impétuosité. Je la suivis dans sa chambre, où M. Dietrich, étonné de ne pas nous voir descendre pour dîner, vint bientôt nous rejoindre. Césarine ne se fit pas questionner. Elle était dans une heure d'expansion et pleurait de vraies larmes. « Mon père !» dit-elle. « Viens me consoler, si tu peux, car Pauline est très indifférente à mon chagrin. Son neveu est marié, depuis longtemps, car il est déjà père de famille. J'ai fait le roman le plus absurde, mais ne te moque pas de moi, il est si douloureux. Cela t'étonne bien. Pourquoi ? Ne te l'avais-je pas dit, qu'il était le seul homme que je pusse aimer ? Il avait tout pour lui. » L'intelligence, la fermeté, la dignité du caractère et la pureté des mœurs, cette chose que je chercherais en vain chez les hommes du monde, à commencer par le marquis. Je ne m'étais pas dit, sotte fille que je suis, qu'un jeune homme ne pouvait rester pur qu'à la condition de se marier tout jeune et de se marier par amour. Maintenant, je peux bien chercher toute ma vie un homme qui n'ait pas subi la souillure du vice. Je ne le rencontrerai jamais, à moins que ce ne soit un enfant idiot dont je rougirai d'être la compagne. Car je sais le monde et la vie à présent. Il ne s'y trouve plus de milieu entre la niaiserie et la perversité. Mon père, emmène-moi, allons loin d'ici, bien loin, en Amérique, chez les sauvages. Il ne me manquerait plus que cela.
lui dit en souriant Monsieur Dietrich. « Tu veux que nous nous mettions à la recherche du dernier des Mohicans ?» Il ne prenait pas son désespoir au sérieux. Elle le força d'y croire en se donnant une attaque de nerfs qu'elle obtint d'elle-même avec effort et qui finit par être réelle, comme il arrive toujours aux femmes despotes et aux enfants gâtés. On se crispe, on crie, on exhale le dépit en convulsions qui ne sont pas précisément jouées, mais que l'on pourrait étouffer et contenir si elles étaient absolument vraies intérieurement. Bientôt, la véritable convulsion se manifeste et punit la volonté qui l'a provoquée en se rendant maîtresse d'elle et en violentant l'organisme. La nature porte en elle sa justice, le châtiment immédiat du mal que l'individu a voulu se faire à lui-même. Il fallut la mettre au lit et dîner sans elle, tard et tristement. Je racontai toute la vérité à Monsieur Dietrich. Il n'approuva pas le mensonge que j'avais fait à Césarine et parut étonné de me voir, pour la première fois sans doute de ma vie, disait-il, employer un moyen en dehors de la vérité. Je lui racontai alors les menaces de Monsieur de Rivonnière et lui avouai que j'en étais effrayée, au point de tout imaginer pour préserver mon neveu. Monsieur Dietrich n'attacha pas grande importance à la colère du marquis. Il m'objecta que Monsieur de Rivonnière était un homme d'honneur et un homme sensé, que dans la colère il pouvait déraisonner un moment, mais qu'il était impossible qu'il ne fût pas rentré en lui-même dès le lendemain de son emportement. « Et alors ?» lui dis-je. « Vous allez dissuader Césarine, lui faire savoir que mon neveu est encore libre ? Vous la tromperiez plus que je ne l'ai trompé, il n'est plus libre. » Il me promit de ne rien dire. « Je n'ai pas fait le mensonge, dit-il, je feindrai d'être votre dupe, d'autant plus que je n'admettrai pas qu'un jeune homme, lié comme il l'est maintenant, pût songer au mariage. » Césarine fut comme brisée durant quelques jours, puis elle reprit sa vie active et dissipée, et parut même encourager à sa manière quelques prétentions de mariage autour d'elle. Tous les matins, il y avait assaut de bouquets à la porte de l'hôtel. Tous les jours, assaut de visites dès que la porte était ouverte. Je voyais de temps en temps Paul et Marguerite rue d'Assas. Je me confirmais dans la certitude que cette association ne les rendait heureux ni l'un ni l'autre, et que l'enfant seul remplissait d'amour et de joie le cœur de Paul. Marguerite était à coup sûr une honnête créature, malgré la faute commise dans son adolescence. Mais cette faute n'en était pas moins un obstacle au mariage qu'elle désirait, et que, pas plus que moi, Paul ne pouvait admettre. Un jour, ils se querellèrent devant moi en me prenant pour juge. « Si je n'avais pas eu un enfant, disait Marguerite, je n'aurais jamais songé au mariage, car je sais bien que je ne le mérite pas. Mais depuis que j'ai mon Pierre, je me tourmente de l'avenir, et je me dis qu'il méprisera donc sa mère plus tard, quand il comprendra qu'elle n'a pas été jugée digne d'être épousée. Ça me fait tant de mal de songer à ça qu'il y a des moments où je me retiens d'aimer ce pauvre petit, afin d'avoir le droit de mourir de chagrin. Ah, je ne l'avais pas comprise, cette faute qui me paraît si lourde à présent. Je trouvais ma mère cruelle de me la reprocher. Je trouvais Paul bon et juste en ne me la reprochant pas. Mais voilà que je suis mère et que je me déteste. Je sais bien que Paul n'abandonnera jamais son fils. Il n'y a pas de danger. Il est trop honnête homme et il l'aime trop. Mais moi, qu'est-ce que je deviendrai si mon fils se tourne contre moi ? Il te chérira et te respectera toujours, répondit Paul. Cela, je t'en réponds, à moins que par tes plaintes imprudentes, tu ne lui apprennes ce qu'il ne doit jamais savoir. « Comme c'est commode, n'est-ce pas, de cacher aux enfants que leurs parents ne sont pas mariés. Pour cela, il faudrait ne jamais me quitter. Et qu'est-ce qui me répond que tu ne te marieras pas avec une autre ?» Je crus devoir intervenir. « Il est du moins certain, dis-je à Marguerite,
qu'il est devenu très difficile à mon neveu de faire le mariage honorable et relativement avantageux auquel un homme dans sa position peut prétendre. L'abandon qu'il vous fait de sa liberté, de son avenir peut-être, devrait vous suffire, ma pauvre enfant. Songez que jusqu'ici, tous les sacrifices sont de son côté, et que vous n'auriez pas bonne grâce à lui en demander davantage. « Vous avez raison, vous, » répondit-elle en me baisant les mains. « Vous êtes sévère, mais vous êtes bonne. Vous me dites la vérité. Lui, il me ménage. Il est trop fier, trop doux. Et j'oublie quelquefois que je lui dois tout, même la vie. » Elle se soumettait. C'était une bonne âme, éprise de justice, mais trop peu développée par le raisonnement pour trouver son chemin sans aide et sans conseil. Quand elle avait compris ses torts, elle les regrettait, sincèrement, mais elle y retombait vite, comme les gens qu'une bonne éducation première n'a pas disciplinés. Elle avait des instincts spontanés, égoïstes ou généreux, qu'elle ne distinguait pas les uns des autres, et qui l'emportaient toujours au-delà du vrai. Paul était un peu fatigué déjà de ses inquiétudes sans issue, de sa jalousie sans objet. En un mot, de ce fond d'injustice et de récrimination dont une femme déchue sait rarement se défendre. Je sortis avec lui ce jour-là, et je lui reprochais de traiter Marguerite un peu trop comme une enfant. « Puisque ce malheureux lien existe, lui dis-je, et que tu crois ne devoir jamais le rompre, tâche de le rendre moins douloureux. Élève les idées de cette pauvre femme. » Adoucis les aspérités de son caractère. Il ne me semble pas que tu lui dises ce qu'il faudrait lui dire, pour qu'au lieu de déplorer le sort que tu lui as fait, elle le comprenne et le bénisse. « J'ai dit tout ce qu'on peut dire, » répondit-il, « mais c'est tous les jours à recommencer. Les vrais enfants s'instruisent et progressent à toute heure, je le vois déjà par mon fils. » Mais les filles, dont le développement a été une chute, n'apprennent plus rien. Marguerite ne changera pas. C'est à moi d'apprendre à supporter ses défauts. Ce qu'elle ne peut pas obtenir d'elle-même, il faut que je l'obtienne de moi, et j'y travaille. Je me ferai une patience et une douceur à toute épreuve. Soyez sûr qu'il n'y a pas d'autre remède. C'est pénible et agaçant quelquefois, mais... qui peut se vanter d'être parfaitement heureux en ménage. Je pourrais être très légitimement mariée avec une femme jalouse, de même que je pourrais être pour Marguerite un amant soupçonneux et tyrannique. Croyez bien, ma tante, que dans ce mauvais monde où l'on s'agite sous prétexte de vivre, on doit appeler heureuse toute situation tolérable, et qu'il n'y a de vrai malheur que celui qui écrase ou dépasse nos forces. Si je n'avais pas une maîtresse, je serais forcée de supprimer l'affection et de ne chercher que le plaisir. Les femmes qui ne peuvent donner que cela me répugnent. C'est une bonne chance pour moi d'avoir une compagne qui m'aime, qui m'est fidèle et que je puisse aimer d'amitié. Quand l'effervescence de la jeunesse assouvie, nous nous retrouverons en face l'un de l'autre. Cela mérite bien que je supporte quelques tracasseries, que je pardonne un peu d'ingratitude, que je surmonte quelques impatiences. Et quand je regarde ce bel enfant qu'elle m'a donné, qui est bien à moi, qu'elle a nourri d'un lait pur et qu'elle berce sur son cœur des nuits entières, je me sens bien mariée, bien rivée à la famille et bien content de mon sort. Paul était libre ce jour-là. Je l'emmenai dîner avec moi chez un restaurateur et nous causâmes intimement. J'étais libre moi-même, Monsieur Dietrich avait été surveillé de grands travaux à sa terre de Mireval, Césarine avait dû dîner chez ses cousines.